Groux est en quelque sorte le fondateur de ce que l'on a appelé l'École historique de Montréal. Il a eu de nombreux et brillants disciples, dont Guy Frégaud, auteur d'un ouvrage important sur la guerre de la conquête, qui lui a souvent rendu hommage.
Devant les générations futures, bien, je pense que l'abbé Groux laissera l'image d'un excellent historien, d'un historien qui aura marqué profondément la discipline qu'il aura pratiquée. Je crois que l'œuvre de l'abbé Groux est destinée à vieillir, comme l'œuvre de ceux qui l'ont suivi, comme l'œuvre de ceux qui nous suivront.
Ainsi que le soulignait l'abbé Groux, les poètes peuvent tout aussi bien que les historiens être des éveilleurs de la nation. Gaston Miron, originaire de Sainte-Agathe-des-Monts, mais descendu à Montréal à 19 ans, commence à publier, à partir de 1953, des poèmes où le nationalisme se fait de plus en plus présent. Il écrit dans 200, S-A-N-G-S, « Je ne sais plus que me traîner pour aller plus loin. Déchéance est ma parabole depuis des suites de pères. » Son œuvre maîtresse, L'homme rapaillé, regroupera en 1970 des écrits antérieurs. Couronné par des prix, cet ouvrage deviendra un best-seller, chose rare en poésie, et sera diffusé dans tout le monde francophone.
Je n'ai pas dit que mon aventure était une aventure collective. J'ai dit que je ne me dissociais pas de l'aventure collective. C'est-à-dire que mon salut personnel ne m'intéressait que dans la mesure où le salut collectif était aussi possible. Par salut collectif, j'entends non pas seulement la survie de l'appartenance culturelle, mais aussi son expression politique dans le monde. Toute ma démarche consiste justement à montrer de l'intérieur et à partir du langage même que je ne peux pas faire l'œuvre que je porte à cause de la situation qui m'en empêche, c'est-à-dire d'une situation globale qui m'empêche de me réaliser, moi, dans toutes mes dimensions.
Le sentiment national, chez nous comme ailleurs, fait sentir son influence dans tous les domaines, y compris même le sport. Plusieurs événements qui marquent la carrière du joueur de hockey Maurice Richard le prouvent de manière éloquente. André Laurendeau explique dans Le Devoir l'importance de ce Montréalais dans l'évolution des mentalités canadiennes-françaises. Pour ce petit peuple au Canada français, écrit-il, Maurice Richard est une sorte de revanche. On les prend où l'on peut. Il est vraiment le premier de son ordre. Un peu de l'adoration étonnée et farouche qui entourait Laurier se concentre sur lui, mais avec plus de familiarité, dans un sport plus simple et plus spectaculaire que la politique. Le 18 décembre 1954, le reporter René Lévesque décrit l'atmosphère qui règne à Montréal au moment où le héros national vient de réussir un exploit.
D'assister à l'arrivée du gars qui est sûrement l'un des deux ou trois Canadiens les plus prestigieux de l'heure, Maurice Richard, à la gare centrale à Montréal, de retour de Détroit, où il vient de compter son 400e but. Ici René Lévesque de Radio-Canada, à Montréal.
L'année suivante, un incident permet d'encore mieux mesurer l'adulation dont jouit celui que l'on surnomme le Rocket. Allusion à sa vitesse, car c'est l'époque où les fusées, issues des V2 allemands, laissent entrevoir une prochaine conquête de l'espace. Le 13 mars 1955, le joueur étoile du Canadien est blessé à Boston au cours d'un match, et il semble que le joueur qui l'a frappé ne sera pas puni. Richard se jette alors sur lui, puis sur l'arbitre. Le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, suspend Richard jusqu'à la fin des éliminatoires. Le 17 mars, le Canadien affronte au Forum les Red Wings. Campbell assiste au match et les partisans du Canadien y voient une provocation.
Et t'étais au Forum ce soir-là lorsque...
Oui, j'étais au Forum, mais quelques-uns de mes amis que j'avais rencontrés durant la journée ou la journée d'avant, l'avant l'émeute, m'avaient laissé entendre que s'ils pouvaient mettre la main sur le président Campbell, il l'aurait déshabillé, il l'aurait emmené sur la glace seulement qu'en BVD, il l'a promené sur la glace. Mais je crois que moi-même, je ne croyais pas à cet incident-là. Et c'est là une raison peut-être que la police ou les pompiers ont décidé de lancer une bombe pour éteindre le feu de tous les jeunes qui étaient dans le forum qui voulaient s'accaparer du président Campbell. Je crois que ça n'aurait pas été une bonne chose, mais par contre, une chose que je dois dire, le président Campbell n'aurait jamais dû venir à cette partie-là ce soir-là. Je pense que le Canadien aurait peut-être eu des chances de gagner, peut-être qu'on aurait eu des chances aussi de finir en première position.
Après la partie, la foule recommence à manifester à l'extérieur du forum. Au cours de ce que l'on qualifie d'émeute, une dizaine de policiers et plusieurs spectateurs sont blessés. Des vitrines volent en éclats et on procède à de nombreuses arrestations. Maurice Richard est invité à la radio pour appeler ses partisans au calme.
Mes chers amis, parce que je joue toujours avec tant d'ardeur et que j'ai eu du trouble à Boston, j'ai été suspendu. Je suis vraiment peiné de ne pouvoir m'aligner avec mes copains du Canadien dans les séries de détails. Je veux toutefois penser avant aux amateurs de Montréal et aux joueurs du Canadien qui sont tous mes meilleurs amis. Je viens donc demander aux amateurs de ne plus causer de troubles et je demande aussi à tous les partisans d'encourager le Canadien pour qu'il puisse l'emporter en fin de semaine contre les Rangers et le Détroit. Nous pouvons encore nous assurer le championnat. J'accepte ma punition et je reviendrai la saison prochaine pour aider mon club et les jeunes joueurs du club à remporter la Coupe Stanley.
La retransmission télévisée des matchs attire une large audience, comme d'ailleurs les émissions télévisées en général. La radio conserve toutefois un grand nombre de fidèles auditeurs, surtout pendant la journée. Ainsi, les radioromans comptent parmi les émissions les plus suivies, telles Métropole de Robert Choquette, série diffusée de 1943 à 1956. Cet auteur a écrit auparavant les textes de Curé de village, puis ceux de La pension Velder. Pour Choquette, sa vocation poétique est plus importante que sa carrière d'auteur radiophonique. Pourtant, sa dernière publication de textes poétiques remonte à 1933, et il faudra attendre 20 ans pour que Suite marine voie le jour. Comment ne pas évoquer brièvement La pension Velder, joué tour à tour à la radio et à la télévision, avant d'entendre Choquette parler de sa propre poésie.
Les dames montent, les messieurs descendent. Mais si les hommes laissent au vestiaire le plus de choses possible, les dames ont grand soin de ne pas quitter leur fourrure. C'est ainsi que Madame Latour, ayant laissé là-haut son manteau de vison, porte le dernier cadeau de son mari, Simac de Russie. Il n'y a pas à dire, à côté de ça, l'unique renard de Madame Velder va avoir la queue basse. Mais ne prêtons pas à Mme Latour des réflexions qu'elle ne fait pas. Ce sont les Yvelines qui pensent ça et non celles qui les portent.
Par la force des choses, on en était venu à me considérer beaucoup plus comme auteur de dialogues radiophoniques que comme poète, et qu'il était temps de corriger cette impression, de prouver que ce n'est point par paresse, comme on l'a écrit, si je n'ai rien publié depuis quelques années, que cela tient au fait que tous les vers que j'ai écrits se rattachent à un long poème, indivisible. Et puis enfin, chers amis, j'ai cédé aux instances du manuscrit lui-même, fatigué du silence des tiroirs et qui demande à essayer sa voix, qui demande à chanter.
Un soir d'hiver, un feu de cheminée, un homme. Un vieillard, seul, hanté par le regret d'hier, une conque où gémit l'absence de la mer.
À sa parution en 1953, Suite marine, dont Jacques Auger vient de lire un extrait, détonne quelque peu sur le reste de la poésie québécoise qui aborde les rivages de la modernité. Saint-Denis-Garneau a déjà fait paraître ses poésies complètes 4 ans plus tôt, et Anne Hébert livre son recueil Le tombeau des rois en 1953. La décennie 1950-1960 voit s'accélérer les changements au Québec dans les domaines les plus divers, y compris dans les comportements et les mentalités. La télévision, l'explosion du tourisme international avec un mouvement grandissant de Québécois et surtout de Montréalais vers l'étranger, l'ouverture au monde et la propagation d'idées nouvelles par de multiples publications, autant de facteurs qui annoncent de grandes mutations et sèment les germes de ce que l'on appellera plus tard la révolution tranquille. La métropole est naturellement le creuset de cette profonde transformation. La population de la ville de Montréal croît moins rapidement que celle de sa banlieue. Le recensement de 1961 donne à la ville une population d'1 191 000 habitants, soit une augmentation de près de 200 000 en 10 ans. Augmentation moins importante qu'il n'y paraît, car les limites de l'agglomération ont été modifiées durant cette décennie. Quant à la population de la région métropolitaine, elle atteint les 2 111 000 habitants, toujours supérieure à celle de Toronto et de sa banlieue. Les communications terrestres se sont améliorées grâce à la construction de nouveaux ponts et du boulevard métropolitain. L'autobus triomphe du tramway, dont le dernier, le Papineau 35-17, accomplit un ultime voyage le 30 août 1959. La télévision cesse d'être monopole d'État et 2 stations privées voient jour. Une francophone, Télémétropole, et une anglophone, CFCF-TV. Après une éclipse de 3 ans, Jean Drapeau revient à la mairie de Montréal. Pour lui, la vocation internationale de sa ville ne fait aucun doute.
Montréal étant une grande métropole vouée à une vocation internationale, doit s'axer non plus sur Toronto, mais sur New York, sur Paris, sur Londres, sur Tokyo, sur Rome. Et dans la mesure que Montréal jouera ce rôle-là, Montréal sera en mesure d'établir des normes que d'autres secteurs du Canada français, du Canada tout entier pourront suivre. Il faut que Montréal accepte, non pas par crainte, mais avec confiance en soi-même, d'être la grande ville française de l'Amérique du Nord capable de jouer sur ce continent le rôle que Paris joue en Europe.
Depuis plusieurs décennies, la métropole a fait preuve d'un appétit grandissant et songe toujours à s'agrandir en annexant ses voisins. L'idée d'une île, une ville, plaît au premier magistrat.
Il s'agit d'un territoire qui, naturellement, est un territoire un territoire uni, borné par 2 rivières qui se rejoignent de toute façon, les eaux se rejoignent. Et ce territoire-là est subdivisé d'une façon absolument arbitraire. Cette façon-là pouvait peut-être être logique ou être tolérable il y a bien des années, mais aujourd'hui, il est absolument intolérable qu'à l'intérieur même du territoire de Montréal se trouvent certaines municipalités.
La pire menace pour l'avenir de Montréal n'est pourtant pas l'existence de cités et villes comme Outremont, Mont-Royal ou Montréal-Nord, mais bien plutôt l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. Concrétisation d'un rêve ancien et qui risque de faire perdre à Montréal son rôle de terminus pour la navigation océanique. Depuis plus d'un siècle, il était périodiquement question de creuser une série de canaux qui permettraient aux navires de haute mer de naviguer jusqu'au Grand Lac. Le projet devient réalité le 26 juin 1959.
Sa Majesté la Reine du Canada et le Président des États-Unis inaugurent une voie royale. Radio-Canada vous présente un reportage sur l'événement du siècle en Amérique du Nord. Où que vous soyez au Canada ou en tout autre pays de langue française dans le monde, vous allez assister au commencement d'une ère nouvelle dans la vie d'un grand fleuve, la réalisation d'un rêve caressé dès le 17e siècle par les découvreurs de la Nouvelle-France et que le génie technique du 20e a permis de matérialiser.
Depuis le jour où les intrépides explorateurs et colons français ont établi les bases du Canada sur les rives de ce fleuve, des hommes prévoyants ont rêvé d'une voie navigable en eau profonde depuis le port de Montréal jusqu'à la tête des Grands Lacs. Plusieurs générations de Canadiens, tant de langue française que de langue anglaise, ont travaillé à la réalisation de ce projet grandiose.
Lionel Chevrier, qui venait de quitter le poste de ministre fédéral des Transports, s'était vu confier de 1954 à 1957 la direction du projet. À ses yeux, la voie maritime ne représentait que des avantages pour Montréal.
Je crois que Montréal, à cause de sa situation, à cause du volume de trafic, à cause du développement de ses ressources naturelles et à cause surtout de l'énergie électrique qu'il y a dans les rapides, la Chine deviendra, avant peu de temps, un port aussi important que celui de New York.
En dépit de ses prédictions optimistes, le volume du trafic diminuera dans le port de Montréal. En revanche, la circulation automobile dans les rues de la ville ne cesse, elle, d'augmenter, au point d'atteindre parfois le seuil de la paralysie. En 1945, on parlait déjà de la construction d'un métro, mais il faut attendre le 23 mai 1962 pour que les travaux débutent réellement. Certains, comme le chansonnier Réal Bélan, demeurent sceptiques, mais c'est compté sans la ténacité du maire Drapeau.
C'est en lisant les journaux qu'on apprend que très bientôt nous aurons notre métro. Je vous dis que c'est pas trop tôt, car pendant les élections, des promesses qui nous en font, on se fait des illusions, ça finit en pleine poisson.
C'est donc plus qu'une manifestation symbolique aujourd'hui. Et nous avons tenu à inaugurer le début des travaux. Par cette manifestation toute simple, mais marquée d'une réalité telle qu'une fois les personnages officiels partis, les ouvriers resteront sur les lieux et continueront de travailler jusqu'à ce que le tunnel soit terminé.
4 ans plus tard, soit le 14 octobre 1966,
on vient de presser sur le premier bouton qui permet à la première rame de partir. Voici apparaissent les deux lumières qui nous indiquent l'arrivée du premier train du métro de Montréal.
En acceptant de s'associer à l'inauguration de ce métro, tous nos visiteurs contribuent à faire de Montréal une ville ouverte sur l'universel. Ville nord-américaine sans doute, mais aussi ville française qui vient d'affirmer une fois de plus son caractère particulier en bâtissant un métro conçu selon le génie de la France.
On n'est rien que 100 ans, 100 ans en retard, on était pognés avec nos petits chars, on avait pas le courage, on avait pas le cœur de sacrer dehors tous les conducteurs et puis les extras, c'est si pauvre, c'est si pauvre.
Même si Raymond Lévesque est un chansonnier de style français qui se plaît à faire rimer l'actualité, son verbe demeure profondément québécois. À Montréal, comme ailleurs dans la province, les années 1960 voient l'éclosion d'une multitude de boîtes à chansons où se produisent des chansonniers, selon l'acception québécoise du terme. Ces auteurs-compositeurs chantent le pays, ses habitants, ses traditions et ses espoirs. Toute une génération vibre aux mots des Leclerc, Vigneault, Léveillé, Ferland, Gautier, Charlebois et autres. Le vent de renouveau qui souffle sur Montréal se répand aussi dans le reste du Québec. Nous sommes en pleine révolution tranquille et en moins d'une décennie, tout se transformera. Le tournant est symbolisé par une année qui va de la mort du Premier ministre Maurice Duplessis en septembre 1959 à la prise du pouvoir le 22 juin 1960 par le Parti libéral dirigé par Jean Lesage. Entre ces deux dates, il y aura eu le court passage de Paul Sauvé à la tête du gouvernement québécois, un épisode que l'on a appelé parfois « les 100 jours de Sauvé ». De sa victoire de juin 1960, Jean Lesage tirait le soir même les conclusions suivantes.
Selon les dernières nouvelles, l'Union nationale a fait élire, l'Union des scandales a fait élire 37.
Le résultat final donne pour l'ensemble du Québec 52 députés libéraux, 42 de l'Union nationale et un indépendant. Sur l'île de Montréal, on compte 8 libéraux, 5 unionistes et le député indépendant. Au début de la Révolution tranquille, un fort courant de nationalisme économique s'exprime dans tout le Québec. Il se manifeste notamment par le désir de la prise de contrôle des ressources naturelles, en particulier énergétiques. Avec le slogan « Maintenant ou jamais, maître chez nous », le gouvernement de Jean Lesage déclenche des élections générales dont le thème central est justement la nationalisation de l'électricité.
Ayant longuement examiné et discuté le problème, le gouvernement est persuadé que la nationalisation de l'électricité est une grande et fructueuse affaire, non seulement pour le bien-être matériel du Québec, mais tout autant pour la santé sociale et l'avenir national du Canada français.
Il nous faut nationaliser, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que plus nous retardons, plus ça peut être dispendieux. C'est essentiel, il faut que nous y allions dès maintenant.
Le Parti libéral est reporté au pouvoir le 14 novembre 1962 avec une majorité accrue. Il dispose maintenant de 63 sièges à l'Assemblée législative, alors que l'Union nationale n'a fait élire que 31 députés. Une des figures dominantes de la campagne électorale a été le ministre des Ressources naturelles, René Lévesque, artisan du projet de nationalisation de l'électricité. Le 1er mai 1963, Hydro-Québec devient propriétaire des principales compagnies productrices ou distributrices d'électricité du Québec. Cet événement majeur intervient dans un climat de nationalisme fervent qui rejoint pratiquement tous les secteurs de la société québécoise. On recherche l'accroissement des pouvoirs et des ressources de l'État québécois et son affirmation sur le plan international. Pourtant, la marche vers cette prise en main de l'ensemble des pouvoirs ne va pas assez vite au gré de certains, dont les éléments les plus avancés veulent passer à l'action directe. C'est ainsi qu'à l'automne de 1962, on assiste à la naissance du Front de libération du Québec, le premier FLQ, dont les membres énoncent ainsi leur but. Le FLQ travaille pour que l'accession du Québec à l'indépendance soit une révolution sociale. Il était compréhensible que le groupe réagisse aux déclarations de Donald Gordon, président des chemins de fer nationaux, qui avançait la prétendue incompétence des francophones pour justifier leur absence de la haute administration de l'organisme qu'ils dirigeaient. Le journaliste Charles Gill résume, dans son bilan de l'année 1963, les principales activités terroristes.
Cela a commencé après les manifestations contre Donald Gordon, a déclaré Scooters, le théoricien du groupe. Nous voulions, par des actes violents, réveiller l'apathie des Canadiens français. Tel était le but. Au début, de simples graffitis sur les murs, FLQ, Québec libre. Puis, des cocktails Molotov, bouteilles remplies de pétrole, lancées sur les murs des casernes. Puis, la dynamite, de nombreux bâtons de dynamite volés dans des chantiers. Plusieurs fois par semaine, des bombes éclataient, les bourgeois en perdirent le sommeil.
La violence qui fait son apparition en 1963 connaîtra une accalmie lors de l'exposition universelle de 1967 à Montréal, avant d'atteindre son point culminant avec la crise d'octobre 1970. En plus d'actes de terrorisme, ces années seront ponctuées de manifestations plus ou moins pacifiques. Les tenants de l'indépendance ou d'une plus grande autonomie pour le Québec ne laissent plus rien passer de ce qui peut irriter le groupe francophone. Par exemple, le fait que le directeur de la toute nouvelle Place des Arts de Montréal soit un Américain incite les membres du Rassemblement pour l'indépendance nationale et ceux du Parti républicain du Québec à manifester devant l'édifice que l'on inaugure le samedi 21 septembre 1963. Tandis qu'à l'extérieur, en chahute, à l'intérieur se déroule une cérémonie à laquelle participent des personnalités du monde politique et du monde des arts. Le lieutenant-gouverneur du Québec, Hugues Lapointe, rend hommage à celui qui est un des principaux initiateurs du projet.
Il y a au-delà de 25 ans déjà, un homme apportait au service de la ville et de sa vie culturelle un talent et un dévouement qui devaient finalement porter fruit. L'Orchestre symphonique de Montréal, qui jouit maintenant d'une réputation internationale, trouve sous ce toit, dans ce temple, un temple permanent, digne de sa valeur et de la persévérance de celui qui en est en grande partie responsable, M. Wilfrid Pelletier.
C'était la réalisation d'un grand rêve, un grand rêve. Je ne croyais pas que nous aurions eu, en si peu de temps, une si belle salle. Car, croyez-moi, c'est une des plus belles salles que j'ai vues de ma vie. Hein. C'est une des plus belles. En Europe, on n'en voit pas de plus belles, et en Amérique non plus.
De 1935 à 1940, Wilfrid Pelletier a été le premier directeur artistique de la Société des concerts symphoniques de Montréal. 11 ans plus tard, il devient directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Québec, poste qu'il occupera jusqu'en 1966. Pelletier est l'un de ceux qui ont beaucoup fait pour développer au Québec le goût de la grande musique. Pauline Donalda en est une autre. Cette soprano montréalaise, de renommée mondiale, a été aidée au début de sa carrière par Massenet. Elle a chanté aux côtés de Caruso et à partir de 1922, elle s'est consacrée à l'enseignement musical. Elle se fait donc un devoir d'assister à l'inauguration de la Place des Arts de Montréal.
Enfin, nous voilà dans cette magnifique salle que j'attendais depuis 1902, l'année que je suis partie pour étudier en France et en Italie. Cette salle est unique au monde et j'en ai vu partout, jusqu'en Russie.
Si les musiciens se réjouissent de disposer maintenant d'une grande et moderne salle de concert, les gens de théâtre, comme Gracien Gilina, ne cachent pas non plus leur satisfaction.
La Place des Arts, ici la grande salle, est actuellement le plus beau théâtre de sa dimension au Canada. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi qui ont vu les salles de Vancouver, qui sont très belles aussi, de Vancouver, de Calgary, d'Edmonton et de Toronto, que la Place des Arts de Montréal est incontestablement supérieure sur tous les plans. D'abord, par les dimensions de la salle, par la richesse, le goût, le luxe, le faste qu'on y trouve, et aussi par le caractère fonctionnel de la salle.
Il allait de soi qu'une création musicale souligne un événement de cette importance et l'orchestre symphonique interprète la concertante numéro 5 de Jean Papineau-Couture, professeur de musique à l'Université de Montréal et une des figures de proue de la musique contemporaine canadienne. La nouvelle Place des Arts inspire également la naissance d'une autre œuvre musicale.
Je suis allé voir l'autre soir le spectacle de la Place des Arts. C'était un opéra italien. C'était beau puis ça chante bien. Le chef d'orchestre était allemand, les danseuses venaient de Moscou, les solistes étaient du Liban, franchement, on se sentait chez nous. Ma blonde, les yeux écartillés, jurait plus par les étrangers, elle pensait comme le directeur qu'on ne ferait rien de meilleur. Elle m'expliquait, tu vois, Pitou, ce directeur, c'est pas un fou,
Il vient à New York et le paye bien. Il sait ce qui plaît aux Canadiens. Je pensais à ça en sortant, puis je me disais, c'est quand même sacrant que l'on ait une place des arts, puis que nous autres, on reste dehors. Dehors. Enfin, la rime n'est pas très riche, je m'excuse. On a pourtant des bons artistes, des chefs d'orchestre et des ténors. C'est-y de valeur, c'est-y pas triste, lorsque l'on a Yolande Huron. Quelque temps après, je suis parti, ayant quelques économies, faire un voyage à l'étranger, histoire de me cultiver. Puis qu'est-ce que j'ai-tu pas entendu un soir à l'Opéra de Paris? Vous pourrez me croire, je les ai vus, Simoneau, Pierrette, Allary. Puis en passant par Varsovie, on annonçait Jacques Baudry. Et à la Scala de Milan, je vous dis que ça parle l'argent là-dedans. À Rome, dans sa belle redingote, j'ai entendu Jean-Paul Janotte. Puis à Madrid, c'est Civera, il y avait Jeanne d'Arc Charlebois. Je me disais, c'est-tu pas fou, pour voir les artistes de chez nous, il faut aller à l'étranger. La vie, c'est ben mal à mancher.
Oui, il faut parfois faire appel à un chansonnier comme Raymond Lévesque pour dresser un bilan de la richesse musicale québécoise. Cet esprit carabin qui sait rire de soi et des autres, on le retrouve régulièrement à cette époque sur les ondes radiophoniques de stations montréalaises.
Les joyeux troubadours!
Mais entrez, voyons!
Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours, en confiance en leur veine, ils rigolent toujours. Ce sont les philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter.
Ne jamais croire, tout est histoire,
c'est comme ça qu'on est heureux.
Faire un sourire quand tout chavire,
c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies,
c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut,
c'est comme ça qu'on est heureux.
Cabaret du soir qui penche. Hello, you out there. This is the Night Falling Cabaret. Broadcast every Sunday from 8 until midnight. A Man and His World Hour.
A Man and His World Hour. Voilà. L'émission est datée. Nous sommes bien en 1967, année de l'exposition universelle sous le signe de Terre des Hommes. Une année faste pour Montréal, qui célèbre son 325e anniversaire de fondation. C'est aussi le centenaire de la Confédération canadienne, mais l'événement ne sera guère souligné, au Québec en tout cas. Les chefs d'État, rois ou présidents d'un grand nombre de pays, se rendent sur les rives du Saint-Laurent au cours de cette année 1967, aussi bien pour visiter l'exposition universelle que pour prendre contact avec Montréal. L'activité que l'exposition universelle engendre à Montréal éclipse quelque peu les fêtes du 325e, qui demeure tout de même une occasion de plus de souligner l'importance de l'ancienne Ville-Marie, ainsi que le fait Daniel Johnson, premier ministre du Québec.
De la fondation de Ville-Marie et l'Expo, du sieur de Maisonneuve au maire Jean Drapeau, Montréal a toujours été la ville de l'audace, de l'entreprise, de l'imagination créatrice. Aussi n'a-t-elle pas fini d'étonner. C'est une ville insulaire et pourtant, il n'y en a pas qui soit plus ouverte à tous les courants novateurs, tant sur le plan intellectuel que sur le plan économique. C'est une ville continentale et cosmopolite, mais elle se fait aussi une coquetterie d'être la deuxième ville française du monde. À cette grande métropole qui célèbre le 325e anniversaire de sa fondation, je suis heureux d'offrir les félicitations et les vœux du gouvernement et du peuple du Québec.
Celui qui semble, aux yeux des Montréalais, la source de toutes ces réussites, c'est leur maire, Jean Drapeau, que plusieurs se plaisent à surnommer « Monsieur Montréal », le même sobriquet affectueux qu'on donnait précédemment à Camillien Houde.
Quant à nous tous, citoyens de Montréal, je crois que nous devons entrer maintenant dans ce 326e, cette 326e année, en pensant que la meilleure façon de reconnaître la grande œuvre des fondateurs, c'est de se rappeler que la fondation d'une ville, ça n'est jamais complètement terminé. Il nous appartient de parachever l'œuvre des fondateurs et de léguer à nos enfants, à ceux qui viendront après nous, une ville encore plus prestigieuse. Et de se rappeler que ce prestige est fait de l'effort de chacun, de l'effort quotidien.
Quand il parle d'effort quotidien, Jean Drapeau sait de quoi il est question, car la préparation de l'exposition universelle a été une course contre la montre. En mai 1960, alors que Sarto Fournier était maire de Montréal, le Bureau international des expositions avait retenu l'URSS comme hôte de l'exposition de 1967, année qui marquait le 50e anniversaire de l'avènement du communisme en Russie. Mais l'URSS se désista 2 ans plus tard et la candidature de Montréal fut alors retenue. Le président du Bureau international des expositions, Léon Beretti, semblait fier de l'annoncer.
Internationale de Montréal sera la première grande exposition de ce genre, strictement conforme à la convention du 22 novembre 1928, qui aura lieu en Amérique du Nord, dans un pays et dans une ville, tous deux en pleine expansion, fougueuse et dynamique. Les bonnes fées semblent bien s'être penchées sur cette exposition, qui sera certainement un grand succès.
Il ne reste que 5 ans, et il faudra faire vite, afin que tout soit prêt à temps. On prolonge le métro jusqu'à Longueuil, en passant par l'île Sainte-Hélène, qui a été choisie comme site. L'île n'étant pas assez grande pour accueillir les pavillons de la 60aine de pays qui doivent participer à l'événement, on décide de réunir quelques îlots pour en former une île nouvelle qui prendra le nom de Notre-Dame. Le pari est tenu. Et le 28 avril 1967, Lester B. Pearson, Premier ministre du Canada, peut procéder à l'ouverture de l'exposition universelle.
Et maintenant, j'ai l'honneur, en nom de tout Canadien, d'inaugurer officiellement l'exposition universelle et internationale de 1967.
On avait estimé qu'environ 26 millions de personnes visiteraient l'exposition, mais c'est plus de 50 millions que l'on dénombre le jour de la fermeture. Parmi ceux-ci, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, la reine Élisabeth d'Angleterre, le roi Constantin de Grèce et des dizaines d'autres chefs d'État. En ce 29 octobre, les propos du maire de Montréal se teintent de nostalgie.
Après avoir vécu 184 jours à apprendre le monde, Montréal doit, en un seul jour, apprendre à s'en séparer. Merci à vous, peuple de la Terre. Merci à vous, peuple de la Terre, qui avez transporté chez nous un inventaire de votre civilisation.
Le plus illustre visiteur de cette exposition universelle, dont les propos ont le plus de retentissement, est assurément le président de la République française, le général Charles de Gaulle. Arrivé à Québec tôt le dimanche 23 juillet, il y passe la journée et entreprend le lendemain de remonter le chemin du roi jusqu'à Montréal. Aux nombreuses étapes, le général est accueilli par des foules enthousiastes qui, dira-t-il, lui rappellent l'atmosphère de la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La foule se fait de plus en plus nombreuse et ardente au fur et à mesure que l'on approche de Montréal. Tout au long de la rue Sherbrooke, des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées et elles sont près de 50 000 devant l'hôtel de ville de Montréal. Et au soir de ce 24 juillet 1967, du haut du balcon, situé au-dessus de l'entrée principale de l'hôtel de ville, de Gaulle harangue cette foule.
C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la ville de Montréal française. Parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Je dis c'est la vôtre et je me permets d'ajouter c'est la nôtre. J'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre.
Les derniers mots du général soulèvent l'enthousiasme délirant d'une partie de ses auditeurs et provoquent une vive inquiétude chez d'autres. Dans certains milieux anglophones, on s'offusque que le président français se soit mêlé de la politique interne du Canada. De Gaulle annule le séjour prévu à Ottawa et rentre en France. L'éditorialiste du quotidien Le Devoir, Claude Ryan, écrit « La visite du général de Gaulle aura eu l'effet d'un électrochoc. Elle aura montré que le nationalisme québécois, loin d'être en perte de vitesse, revêt une ampleur insoupçonnée. Elle aura rappelé au Canada anglais que le rêve de liberté des Canadiens français est plus vif, plus dynamique, plus largement répandu que jamais. Les mouvements indépendantistes sentent qu'ils ont le vent dans les voiles, d'autant plus qu'une crise secoue le Parti libéral du Québec. Ces convulsions internes se terminent par la démission putée, dont René Lévesque, qui fonde le mouvement Souveraineté Association, groupement qui fusionnera l'année suivante avec le Rassemblement pour l'indépendance nationale et donnera naissance au Parti québécois. Parallèlement, la violence a refait surface et elle éclate au grand jour le lundi 24 juin 1968, la veille des élections générales fédérales. Le chef du Parti libéral du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, est devenu premier ministre du pays 2 mois auparavant et en pleine campagne électorale, il assiste au défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Plusieurs dignitaires prennent place à ses côtés sur l'estrade érigée devant la bibliothèque municipale. Peu après le début du défilé, des spectateurs crient des slogans indépendantistes et brandissent des pancartes.
Et c'est l'harmonie de Beauharnois.
ici, paraît-il, je suis actuellement dans le parc La Fontaine, derrière l'une des esclaves d'honneur. Mais je ne sais pas si c'est le char ou le défilé qui agit, mais depuis quelques instants, les manifestants se sont légèrement calmés. Et c'est beaucoup dire calmés. Et vous comprendriez ce que c'est si vous aviez été témoin des scènes que nous avons vues tout à l'heure. C'est-à-dire, il pleuvait des projectiles, des bouteilles, des bâtons. Au moins 5 policiers ont été blessés devant moi. On a effectué...
On voit en effet autour de nous, devant cette estrade où sont les plus hautes sommités, le Premier ministre Trudeau, M. Johnson, l'archevêque de Montréal, le maire Drapeau, et j'en oublie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici devant c'est une dizaine de motocyclettes avec le double d'agents qui sont là, qui protègent les invités. C'est pas l'atmosphère classique de la Saint-Jean-Baptiste telle que nous l'avons connue autrefois.
L'année suivante, des manifestants renverseront le char allégorique sur lequel se dresse un Saint-Jean-Baptiste en carton-pâte et on décidera alors d'abandonner le défilé.